La une dans le monde, Lise, vous avez souhaité revenir sur le rôle que joue la Turquie dans la guerre entre Israël et le Hamas, à la lueur et à la lumière, surtout du discours extrêmement violent asséné par le président turc Recep Tayyip Erdogan, c'était avant-hier.
Oui, absolument, et je suis ravie de recevoir ce matin Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Donc, une nouvelle crise diplomatique, Alexandre Delval, entre Israël et la Turquie. Après les accusations, on ne peut plus clair, de Recep Tayyip Erdogan, qui accusait Israël de crimes de guerre et ne condamne absolument pas le Hamas.
Oui, ce n'est pas du tout une surprise. Vous savez, depuis l'affaire du Marmara, il y a en 2010, il y a eu une crise énorme entre les deux pays, puisque déjà la Turquie aidait le Hamas de manière assez idéologique et claire. Ensuite, il y a eu un rapprochement il y a quelques mois qui était intéressant, puisque Erdogan change très souvent de d'attitude suivant les circonstances, par rapport aussi à la politique intérieure. Et là, il ne pouvait pas faire autrement, puisque sinon il allait perdre son cœur d'électorat. Je ne dis pas qu'il faut lui trouver des excuses, bien entendu, pas du tout. Mais il y a beaucoup de théâtre chez Erdogan. C'est un pays qui reste avec une relation importante avec Israël. Il y a encore des gens qui sont pro-israéliens en Turquie. Mais Erdogan est obligé de faire cela par rapport à ses électeurs, puisque le succès du Hamas est tel dans l'opinion publique que s'il n'avait pas fait ça, ça lui aurait été reproché et ça aurait été extrêmement préjudiciable pour son leadership à l'intérieur du mouvement islamiste.
Bien sûr. Alors, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a annoncé le rappel de ses diplomates en Turquie. Et pourtant, Alexandre Delval, la plupart des experts disent que ces mesures ne devraient pas affecter complètement les relations qui existent entre les deux nations, la Turquie et Israël, parce qu'il y a visiblement des relations économiques et militaires qui sont donc des intérêts communs tout de même assez importants.
Il y a beaucoup d'intérêts économiques, il y a des liens touristiques importants, des intérêts militaires de très très haut plan, et en plus il y a le projet de gazoduc EastMed, extrêmement important, qui alimenterait l'Europe avec du gaz notamment israélien. Il y a aussi du gaz chypriote grec, mais il y a du gaz israélien, et Erdogan a toujours montré son pouvoir de nuisance, et il a montré ça sera avec lui ou pas, et qu'il bloquerait ce projet s'il n'y avait pas une entente. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important qui se joue ici. Et récemment, il y avait un accord justement pour le projet de gazoduc que M. Erdogan vient de suspendre. Donc Israël n'aurait pas intérêt pour l'instant à rompre totalement les relations, puisque en Israël, il y a quand même aussi des gens qui sont raisonnables, qui sont froids, et ils savent qu'une partie de ce que dit Erdogan, c'est de la rhétorique, certes de la rhétorique dangereuse, qui va encore attiser, légitimer une certaine fanatisation pro-Hamas, bien entendu, mais en Israël, les dirigeants savent très bien qu'en politique, il y a souvent beaucoup de bluff et de théâtre. Et donc, ouais, derrière ce qui se dit, il y a la machine de ce qu'on appelle le Derin Devlet en Turquie, l'État profond, qui lui continue de parler et d'échanger avec Israël sur tous les domaines.
Alors, ce qui est peut-être plus étonnant, Alexandre Delval, c'était le fait que Erdogan n'a pas attaqué que Israël, il a attaqué globalement l'Occident. Est-ce que vous allez créer une nouvelle atmosphère de croisade, etc. Et il s'est érigé en champion de l'islam.
Alors, il faut avouer que de ce point de vue, Erdogan est très intelligent, ou plutôt très habile. Il a toujours su utiliser les mots qu'il fallait pour exercer un chantage psychologique. Rappelez-vous, quand on a parlé de la candidature de la Turquie dans l'Union européenne, Erdogan disait déjà à l'époque, attention, si vous ne faites pas rentrer la Turquie dans l'Union européenne, ce sera un choc de civilisation entre l'islam et l'Occident. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Donc, il ne faut jamais oublier que quand Erdogan fait ce genre de menace, le but, c'est de faire plier les Occidentaux, de leur faire peur pour qu'ensuite on lui donne des concessions. Il pense peut-être à tort, hein, mais peut-être à tort, mais Erdogan, il faut voir qu'il a parlé de l'Europe en voie de putréfaction dans un discours il y a 4 ans en Bosnie, à l'adresse des musulmans d'Europe qu'il appelait à ne jamais s'intégrer. Et donc, il exerce un pouvoir de nuisance tel qu'il sait qu'à cause de sa présence dans l'OTAN, à cause du fait qu'il y a 50 bases militaires américaines, dont une base militaire américaine avec des ogives nucléaires sur son territoire, à cause de sa position stratégique, son lieu de passage pour les gazoducs, sa capacité de mettre le trouble dans les communautés musulmanes en Europe, sans oublier ses liens jadis avec Daesh et toujours aujourd'hui en Syrie avec Al-Qaïda, plus son aide à Hamas. Erdogan, pourquoi il fait tout cela et pourquoi il en profite, ça séduit son électorat et en même temps ça montre son extrême pouvoir de nuisance à la face du monde, et il est membre de l'OTAN et on ne peut pas l'expulser si facilement. Ouais. Et donc si vous voulez, c'est de la négociation, c'est un peu comme les Iraniens et les Turcs ont deux points communs: ils ne sont pas arabes, ils utilisent la cause palestinienne pour séduire les arabes, et ils négocient tout le temps en montrant un énorme pouvoir de nuisance. C'est comme aujourd'hui l'Iran. L'Iran a plus ou moins retenu, je m'excuse de dire ça, ça va choquer les auditeurs, mais par rapport à ce que pourrait faire le Hezbollah, pour l'instant, l'Iran a contenu le Hezbollah. Le Hezbollah pourrait faire pleuvoir une pluie de roquettes comme en 2006. Moi, j'étais en Israël en 2006, c'était autre chose. Donc là aussi, mais il y a quand même des roquettes qui partent du Hezbollah, histoire de montrer son pouvoir de nuisance, mais en sachant exactement jusqu'où il faut aller. L'Iran ne va pas jusqu'à provoquer une guerre contre lui-même. L'Iran, c'est très bien. Eh bien, la Turquie, c'est pareil, c'est toujours cette stratégie du test, ce que j'ai appelé le test des intentions. Je vais acculer l'autre jusqu'à ce qu'il soit au bord de craquer, mais je ne vais pas trop loin, mais je vais assez loin pour lui faire peur et pour lui montrer que je peux faire des dégâts. Et donc cette stratégie, elle a toujours marché. Regardez, les Européens n'ont toujours pas fermé les négociations avec l'Union Européenne, alors que ce pays qui envahit Chypre, qui a aidé Daesh et qui fanatise la communauté musulmane en Europe, et qui menace la Grèce, donc qui met des troubles et qui menace l'intégrité territoriale de deux membres de l'Union Européenne. On n'a toujours pas fermé les négociations, on continue à donner de l'argent au titre de la préadhésion, parce qu'il y a un énorme pouvoir de nuisance. La géopolitique, c'est les rapports de force, et Erdogan est maître champion pour les rapports de force, mais aussi les rapports de force psychologiques par le chantage.
Alors, en parlant de chantage, Alexandre Delval, je voulais aussi votre avis sur le Qatar, cet État qui joue quand même un double jeu excessivement dangereux, puisqu'on sait bien que c'est le premier soutien du Hamas, à commencer par son soutien financier, puisque c'est le Qatar qui finance le Hamas à coups de millions, et qui aujourd'hui se pose comme la clé de la libération des otages.
Alors là, c'est à se retourner de rire. C'est quelque chose d'assez stupéfiant. Un jour, j'ai été convoqué par le numéro 2 de l'ambassade du Qatar suite à une émission chez Ardisson où j'avais un petit peu malmené ce pays. Puis après, on s'est parlé franchement. Et quand j'ai donné les noms des terroristes qui se trouvent... Il n'y a pas que le bureau du Hamas. Il y a des terroristes de plusieurs mouvements terroristes mondiaux. Et quand je lui ai dit, attendez, ne prenez pas pour un imbécile, vous n'allez pas juste négocier la libération des otages comme en Libye, vous avez de véritables terroristes chez vous qui collectent de l'argent, qui collectent des fonds et qui s'entraînent, en tout cas au moins idéologiquement, et qui font leurs appels depuis chez vous. Et il me répond, ah, vous savez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous savez, comme l'homme qui vient de tromper sa femme, il est pris en flagrant délit, il dit, c'est pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que vous croyez. Lorsque nous avons des terroristes sur notre territoire, c'est une vieille tradition d'accueil bédouin. Quand on a accueilli des gens et qu'on apprend qu'ils sont des méchants, ben, en fait, la tradition bédouine fait qu'on peut jamais les expulser, même si on est contre ce qu'ils font. On n'approuve pas, hein. Mais c'est la tradition bédouine. Voilà, c'est une tradition d'accueil. C'est très important pour nous, la tradition, la parole donnée. À un moment, je lui dis, mais vous me charriez, là, vous voulez me faire une blague, c'est pas possible. Et il a commencé à rigoler, et un petit peu, et j'ai vu que l'extrême fourberie du Qatar. Qatar se pose en négociateur à chaque fois pour libérer des otages que ses propres amis ont pris. C'est comme si un mafieux vous dit, moi je vais t'aider à libérer un otage que mon frère, qui est numéro 2 du clan, vient d'attraper. C'est à mourir de rire. Et l'Occident tombe dans le panneau. Moi, je pense que l'Arabie Saoudite et les Émirats avaient raison quand il y a eu la crise après Khashoggi. Le Qatar devrait être banni, internationalement banni. Ce pays a un pouvoir de nuisance énorme. Il aide les frères musulmans dans toute l'Europe. Et n'oublions pas que ça intéresse Israël, ce que je viens de dire, puisque les frères musulmans en Europe, qui ont pignon sur rue, qui ont plein de centres, d'écoles, et qui collectent de l'argent pour la Palestine, où va l'argent que collectent les frères musulmans en Europe ou en Amérique ? Quand les frères musulmans collectent de l'argent, vous savez, même parfois dans des boulangeries, on voit des tirelires, où on a un euro pour la Palestine. D'ailleurs, souvent, c'est écrit El-Aqsa sur la petite boîte de conserve, où on met un euro. Eh bien, cet argent va dans les caisses du Hamas. Le Qatar met en place, finance, aide, appuie les frères musulmans dans le monde entier, qui, dans le monde entier, collectent de l'argent pour le Hamas. Donc, il faudrait considérer, comme les Émirats l'ont fait, et les Émirats arabes unis, c'est le seul allié qu'on a véritablement au Proche-Orient, peut-être avec les Saouds, mais ils sont plus ambigus. Les Émirats arabes unis font une guerre totale contre l'islam politique. Ouais. Et une guerre totale contre, mais beaucoup plus que nous. Toutes les organisations fréristes autorisées en Occident, y compris le lobby américain de l'islam, qui s'appelle le Council of American Islamic Relations, le CAIR a des associations qui, sur le sol américain, en toute liberté, collectent des fonds pour la Palestine. Et je le répète, les frères musulmans, ils n'aident pas l'autorité palestinienne, ils envoient les fonds à Gaza. Donc ouais. Le Qatar est le premier collecteur d'argent indirect pour les frères musulmans. D'ailleurs, le Qatar Charity finance l'European Trust, c'est l'organisation européenne des frères musulmans qui finance les mosquées et de très nombreux centres partout. L'Italie, dernièrement, a accueilli énormément d'argent du Qatar. Et avec l'argent de la charité, c'est comme Islamic Relief, cette organisation Islamic Relief qui a pignon sur rue dans le monde entier, envoie de l'argent au Hamas. Donc, vous voyez, on a parlé de l'Iran ces derniers jours. Et moi, je trouve ça très hypocrite. Un autre financier méconnu des frères musulmans, c'est un ami du Qatar, qui s'appelle le Koweït. Le Koweït est un pays très islamiste, où au Parlement, on a des membres des frères musulmans qui disent que ce serait bien de rétablir l'esclavage, parce que mon homme a une esclave femme, y compris sexuelle, c'est pas de l'adultère. Ça rentre pas dans le péché adultère. On a ce genre de propos au Parlement koweïtien. Le Parlement koweïtien est infiltré de frères musulmans et le Koweït est l'un des financiers des frères musulmans et du Hamas. Donc on a quand même de drôles d'amis entre la Turquie, membre de l'OTAN et membre important de l'OTAN, le Koweït et le Qatar, sur les quatre grands financiers et appuis du Hamas, on en a trois qui sont des membres d'organisations liées à l'Occident. Qui sont des alliés. Il y a même des bases militaires américaines au Qatar. Donc moi, je pense qu'à un moment, cette imposture devra finir. Alors, M. Scholz, en Allemagne, dit qu'il faut bannir les frères musulmans. Il a enfin compris, après 40 ans, que les frères musulmans fanatisent ses propres citoyens allemands, et ce qui va être absolument fatal. C'est presque irréversible. À partir d'un certain nombre, c'est très, très difficile de revenir en arrière. Mais M. Scholz, en Allemagne, continue à flatter le Qatar. Ah non, mais le Qatar, c'est différent. Non, mais c'est absolument incroyable, cette contradiction de l'Occident qui veut combattre un mouvement dont il permet les financements, les aides, l'appui par ses propres alliés.
Bien sûr. Merci beaucoup Alexandre Delval pour cette analyse. Alors je rappelle que vous êtes géopolitologue et pour les gens que ça intéresse, notamment sur les frères musulmans, vous aviez fait un livre exceptionnel avec Emmanuel Razavi qui s'appelle « Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde ». Je vous avoue que je l'ai lu et que ça m'avait donné froid dans le dos. Et depuis, vous en avez sorti deux, « Les vrais ennemis de l'Occident » et le dernier « Vers un choc global » dans lequel vous annoncez une nouvelle phase géopolitique du monde. Vous reviendrez nous en parler quand on sera moins en édition spéciale sur Israël. Merci Alexandre Delval, une très bonne journée à vous.